Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Agenda. Mon nom est Jonathan Carrero-Benoît et aujourd'hui, je serai solo. Et oui, enfin, un premier balado où on est un peu... Je suis seul, en fait, tout simplement. C'est juste les événements actuels l'obligent ainsi. Coudonc, il faut faire avec. Donc aujourd'hui, écoutez, chers auditeurs, j'ai décidé de vous parler un peu de l'actualité mondiale. Vous savez, depuis le temps, là, maintenant, là, je suis un grand fan de tout ce qui est relations internationales. Et pour le coup, cette semaine, on a été servi. C'est pas possible. Alors, j'ai sélectionné en fait trois nouvelles. Je pense de toute façon là, que déjà en partant, vous savez un peu de quoi je vais vous parler. Bref, voilà, c'est ça. Donc, j'ai aucune idée combien de temps le balado va durer. Il va nécessairement être plus court que les précédents. Ça j'imagine que ça va juste être un fait. Mais bon. Alors, la première nouvelle, écoutez, on l'a su un peu plus tôt cette semaine, le 6 août du moins, avec ce que je peux lire ici. Donald Trump, hein, le président américain, a réimposé en fait des tarifs de douane de 10% sur l'aluminium canadien, donc nécessairement québécois, en sachant malgré tout que ça fait à peu près un mois que le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique est en vigueur, donc l'ACEUM là, pour les intimes. Donc ça fait un mois qu'elle est rentrée en vigueur, donc c'est-à-dire qu'elle est appliquée à tout ce qui a trait aux importations et exportations entre les trois pays nord-américains. Et pourtant, M. Trump poursuit sur cette lancée, cette fameuse lancée de pré-entrée en vigueur, si je peux le dire ainsi, avec son idée d'imposer des tarifs de 10%. Bon, légitimement, qu'est-ce que ça fait sur le court terme? Ben honnêtement, ça fait pas grand-chose à part foutre la merde, et voici pourquoi. Parce que là, en ce moment, à Ottawa, évidemment, tous les oppositions ont réagi de plus belle en demandant au gouvernement une certaine riposte, là, si je peux le dire ainsi. Bon, évidemment, ça n'a pas tardé que Chrystia Freeland, hein, s'est empressée de réagir à la nouvelle, là, puis elle a nécessairement fait valoir à l'opposition et aux Canadiens qu'une riposte rapide sera nécessaire. Bon, à voir à quel point ça va se faire, j'ai hâte de voir. Mais légitimement, sur le long terme, par contre, ce que ça fait, eh bien, c'est sûr que ça nous embête. Hein. Vous le savez, le Québec est un grand producteur d'aluminium, hein, surtout dans le nord, au niveau du lac Saint-Jean, bon, tout ça. Évidemment, le Bloc québécois a été pas mal le premier à réagir là, avec son chef Yves-François Blanchet sur la question, et j'en suis nécessairement fier, étant donné que je suis bloquiste, hein, comme vous le savez. Alors évidemment, cette réponse rapide et efficace de la part de mon chef m'a plu. Mais par contre, il faut regarder un peu aussi ce qui s'est fait du côté des autres oppositions. Les conservateurs, eh bien, sincèrement, j'en suis très satisfait également. Je crois que leur réponse, elle est agréable à l'écoute. Les néo-démocrates, j'avoue que j'en sais pas trop. Si jamais vous savez ce qui se passe du côté des néo-démocrates, gênez-vous pas de nous écrire directement ou de laisser un commentaire sur Facebook ou peu importe. Au niveau des Verts, bon, encore une fois, c'est un peu nébuleux. Mais les libéraux, par contre, hein, le gouvernement comme tel, comme je l'ai dit, Freeland a répondu. Une réponse sera donnée dans les plus brefs délais, mais on reste encore un peu en stand-by en bon français. Bon, évidemment, le pourquoi du comment de tout ça, bon, je pense que ça va pas, ça sera pas une surprise. M. Trump, qui va encore avec ses bons arguments, voire presque slogans, « Ah, le Canada nous utilise à leurs frais, à leurs intérêts. » Alors que le Canada, comme je l'ai écrit dans un de mes textes les plus récents dans la Tribune, le Canada est littéralement une souris à côté d'un éléphant. Hein. On joue dans la cour des grands en sachant très bien qu'on n'a pas le poids. La seule raison pourquoi on est aussi influent, là, entre gros guillemets, auprès des États-Unis, c'est qu'on est littéralement sur le même continent, enclavé entre les deux plus gros océans du monde. Hein. Donc, nécessairement, quand on se met à la place des États-Unis, on n'a pas le choix d'être au courant de ce qui se passe au Canada et vice-versa. Alors, quand M. Trump dit que, bon, le Canada profite un peu de nous, ben, il n'a pas nécessairement tort d'une certaine façon. Mais en revanche, j'aime rappeler que 80% des importations et exportations canadiennes dépendent des États-Unis et encore une fois, vice-versa. Alors, nécessairement, si M. Trump pense vraiment que le Canada, au niveau économique, bien sûr, n'a pas le poids de la riposte, il se trompe catégoriquement. Alors, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce qui va en être de la part de M. Trudeau à cet effet. Bon, malheureusement, comme je dis, je ne peux passer plus de temps sur cette nouvelle, étant donné que, eh bien, on n'a pas plus d'informations pour l'instant, du moins au moment où j'enregistre ce balado. Bon, là, vous m'excuserez, vous entendez probablement les clics de ma souris, c'est que je change les pages de nouvelles pour aller à celle-ci, à cette dernière qui, ma foi, n'est sans nous rappeler, du moins nous, Québécois, la tragédie de Lac Mégantic, et vous me voyez venir, évidemment, l'explosion au port de Beyrouth, la capitale du Liban, hein, capitale qui est située évidemment sur les rives de la mer Méditerranée, dans l'ancienne Phénicie. Écoutez, c'est une explosion qui est. Qui nous laisse pantois, parce qu'encore une fois, j'adore en fait l'idée de la comparer à Lac Mégantic, où c'est une explosion qui aurait pu nécessairement être évitée par les autorités en place. Bon, sans rentrer évidemment comment dire, dans les manifestations politiques qu'il y a présentement au Liban, bon, en sachant que la population est mécontente de son gouvernement, etc., etc., sans rentrer dans les détails techniques. Il est certain, 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 certain que cette tragédie aurait pu être évitée pour une simple et unique bonne raison. C'est plus de 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont été stockées à un des hangars du port, et ce depuis plus de 6 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 6 ans que les autorités étaient au courant que plus de 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées là. Nitrate d'ammonium, bon, juste pour faire ça bref, pour ceux et celles qui ne seraient peut-être pas au courant de ce que c'est une, on va l'appeler une ressource, qui est utilisée surtout à des fins agricoles, mais qui peut également être utilisée à des fins d'explosifs, hein, comme de fait. C'est très inflammable. Et ça prend nécessairement une grande température pour que cette dernière puisse exploser. Comme on le sait, évidemment, il y a eu deux explosions. Une première qui a été déclenchée par, bon, encore une fois, on ne sait pas trop quoi. Certains prétendent évidemment que ça pourrait être le hangar à feu d'artifice qu'il y avait à proximité qui aurait peut-être pu prendre feu, déclencher plutôt, accentuer, être un catalyseur, si on peut dire, de chaleur, évidemment, ce qui aurait mis feu, évidemment, aux 2 700 tonnes de nitrate et qui aurait déclenché, évidemment, cette immense explosion. C'est l'hypothèse, là, la plus véridique à ce jour. Je joins ma voix à tous les médias qui nous disent de faire gaffe, hein, aux fake news, entre guillemets, car il y en a beaucoup, même des vidéos truquées où on voit là, des missiles exploser sur le port. C'est complètement faux. Il faut faire vraiment attention, c'est complètement faux. Il faut absolument pas tomber dans le piège. C'est vraiment deux explosions, une à la suite de l'autre, l'une causée potentiellement, comme je l'ai dit, par ce fameux hangar de feu d'artifice, mais on n'en est pas certain, et la deuxième, définitivement, définitivement causée par ce hangar de nitrate d'ammonium. Alors moi, pourquoi parler de ça? Eh bien, tout simplement parce que, on le sait, le Liban, c'est un pays ami de l'Occident, hein? On s'en cachera pas. C'est un pays ami pour plusieurs raisons, historiques surtout comme de fait. Mais c'est la réponse de l'ONU, pardonnez-moi, de l'Union européenne qui m'a le plus touché, si je peux dire ainsi, et plus précisément de la France. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu le jour suivant sur les lieux du drame pour assister les autorités en place et pour proposer un aide humanitaire directe. On peut comprendre que ça fasse pas l'unanimité, hein, en sachant très bien que Monsieur Macron, à travers cela, a demandé des réformes obligatoires à une aide de la France. Donc, c'est-à-dire que si le pays se réforme, la France viendra en aide. Mais bon, le jour suivant l'explosion, peut-être que c'était pas nécessairement le bon temps de le faire. Mais bon, en même temps, après, c'est ce qui frappe le plus. Nécessairement, si le président se présente, alors même que l'explosion est toute fraîche dans la mémoire, ça a un impact beaucoup plus considérable sur l'imaginaire collectif. Et là, on le voit aujourd'hui dans les rues de la capitale libanaise. C'est carrément l'anarchie, là. Je veux dire, les gens sont mécontents, les gens demandent des réformes, les gens sont dans la rue à manifester en masse. Et ça, c'est beau à voir d'une certaine façon parce que, comme j'ai dit au début, nécessairement, cette explosion aurait pu être évitée. Elle n'a pas été évitée. Elle s'est produite et comme tout dans l'histoire de l'humanité, il aura fallu cette triste explosion, cette triste catastrophe, tragédie pour que les gens réalisent l'importance d'avoir une bonne gouvernance. Mais comme je dis, je ne veux pas rentrer dans les détails. Moi, ce qui m'intéresse par contre, c'est de savoir pourquoi il y avait plus de 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium de stocké depuis 6 ans à ce port. En sachant évidemment que c'est le port quand même officiel de la capitale libanaise. C'est le port où littéralement tous les navires doivent s'amarrer pour fournir la capitale et légitimement le pays en ressources. Bon, j'ai vu passer, hein, bon, vous m'excuserez, j'ai vraiment aucune idée si c'est vrai ou faux, mais j'ai vu passer que cette cargaison serait... aurait été largué par un ancien navire russe. Bon, à quel point c'est vrai, encore une fois, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai lu dans l'actualité la plus récente. À voir à quel point c'est vrai, j'ai bien hâte d'en savoir davantage. Bon, maintenant au niveau du bilan, au moment où j'enregistre ça, on compte environ 160 morts, ce qui est, ma foi, bon, je suis pas en train de dire que c'est peu, mais quand même par rapport à l'importance de l'explosion, je trouve que on s'en tire quand même relativement bien de ce côté. Ce bilan augmente à tous les jours. Je ne sais pas combien ça va être au final, mais pour l'instant, je trouve qu'au niveau des morts, on s'en tire bien. Bon, au niveau des blessés, par contre, bon ben là ça se compte par milliers. On compte environ 6 000, hein, pour faire un chiffron. 6 000 blessés à travers 100, dont 120 critiques, pardonnez-moi, donc là je suis en train de lire un peu ce qu'ils en disent. Donc 120 blessés graves pour 6 000 blessés en général. J'ai comme l'impression que les blessés graves risquent d'augmenter le nombre de morts au final. Et je dis pas ça pour être méchant ou quoi que ce soit, je dis juste ça parce que la réalité sur le terrain, elle est catastrophique. Il faut bien comprendre que l'explosion a littéralement détruit un système mis en place. Pas juste d'infrastructures physiques, mais également psychologiques, factuelles, administratives, pardon. Les hôpitaux à proximité n'ont plus de courant, n'ont plus d'eau courante. Donc c'est impossible d'emmener les malades là. Et là, j'ai pas besoin de vous dire en plus qu'à travers ça, bon, on a la pandémie de COVID-19 qui fait son lot de dommages. Il faut comprendre qu'en ce moment, le Liban, ce qu'il a de besoin, ou du moins Beyrouth, ou les citoyens libanais, c'est de l'aide humanitaire. Mais direct. Pas en passant par le gouvernement, évidemment, en sachant très bien que le gouvernement est... Là, je l'ai dit, il y a des manifestations catégoriques sur ce dernier. La meilleure façon d'aider les Libanais à l'heure actuelle, c'est de donner à des organismes humanitaires. Donc, j'ai nommé la Croix-Rouge parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas donner directement au gouvernement libanais. Moi-même, je n'ai pas l'impression que c'est la meilleure chose à faire. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Alors, comme je l'ai dit, l'infrastructure même du pays en ce moment est chamboulée, en sachant aussi que le pays vit en présentement une de ses pires crises économiques de l'histoire. Bah, il fallait pas que demander de plus qu'une explosion supplémentaire. T'sais. Donc, bon, enfin bref, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Le gouverneur de Beyrouth, hein, ce qui équivaut un peu là, aux députés de Beyrouth, là, en d'autres termes, fondu en larmes, évidemment, en voyant sa ville réduite en cendres ou en quelques parties. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que, oui, le port a été complètement détruit. Le port a été complètement détruit. Ça, en partant, c'est une pure catastrophe. Mais, pire que ça, c'est que l'explosion a été telle que c'est sur un rayon de près de 9 km que tout a été ravagé. Bon, pas détruit jusqu'aux cendres, ça va de soi, mais quand même, suffisamment endommagé pour ne plus être opérationnel. Alors, vous pouvez imaginer tous les commerces, toutes les habitations. C'est 300 000 Libanais, quelque chose du genre. C'est 300 000, attendez un instant, je vérifie. Oui, c'est environ ça. C'est environ 300 000 Libanais qui se retrouvent sans logement à l'heure actuelle. Dans la capitale. Imaginez, là. Alors, il faut donner à la Croix-Rouge ou à un organisme humanitaire du genre, directement à l'ONU, aller directement sur le site de l'ONU, je suis pas mal certain qu'on va pouvoir trouver à partir de là les ressources nécessaires pour aider au mieux qu'on peut. Bon, évidemment, le Canada est en voie, bon, d'envoyer un peu d'aide. Je sais que le gouvernement du Québec donne 1 million quand même. Hein. Le gouvernement du Québec, hein, M. Legault, a sorti 1 million de dollars canadiens pour envoyer en soutien. Alors, c'est quand même bien. On fait notre part comme on peut. Bon, alors, une grosse explosion, hein, je rappelle, ça s'est passé le 4 août 2020. Au moins 6 000 blessés, 160 morts. On compte aussi une vingtaine de disparus. Donc, ça, c'est directement, j'imagine que c'est directement sur le site du port. Je sais, là, j'ai vu passer là, dedans des médias français que c'était beaucoup de pères de famille hein, qui gagnaient évidemment des salaires de crève-faim à raison de 5 à 10 $ par jour, hein, c'est pour vous dire. Aussi une grande pauvreté qui alourdit psychologiquement, comme je le disais, ce bilan. Bon, la dernière nouvelle que je voulais vous parler, et non la moindre. Elle est passée un petit peu, bon, inaperçue, mais en même temps, il fallait s'y attendre en sachant ce qui se passe à Beyrouth, là. C'est un peu normal qu'elle ait passé un peu dans le beurre. Néanmoins, elle n'en est pas plus catastrophique. Pour le coup, c'est une catastrophe écologique. Bon, je suis pas en train de dire que l'explosion de Beyrouth, c'en est pas une, mais elle est nécessairement moins importante écologiquement que celle dont je vais vous parler, et j'ai bien évidemment nommé l'île Maurice. Hein, un gros titre aujourd'hui dans. Ben aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah non, c'était hier, dans le journal de Montréal, l'île Maurice, un paradis menacé par une marée noire. Non, alors, marée noire dit évidemment pétrole, vous me voyez venir. Ben, pétrolier, hein, quand même. Bon, je crois que tout le monde a vu. C'est quoi un pétrolier, hein? C'est un gros bateau qui transporte tout simplement du pétrole. 200 tonnes de diesel, hein? Donc le fuel utilisé par le bateau pour traverser les eaux. En plus de quoi, 3 800 tonnes d'huile lourde. Alors, autrement dit, là, du pétrole brut, là, ou presque. Donc, 3 800 tonnes de pétrole brut avec 200 tonnes de diesel, hein? On peut se douter que ça s'approche plus du mazout que du diesel, hein, étant donné que c'est moins cher. Mais bon, ça c'est un détail, parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Alors, d'abord, l'île Maurice, pourquoi parler de l'île Maurice à ce point-là, en sachant que des catastrophes comme celle-ci de transport pétrolier ça arrive récurremment, ça arrive de façon assez annuelle, là, si c'est pour dire mensuelle, hein. Il y en a à peu près à tous les mois des catastrophes comme celle-ci. Pourquoi parler de celle-ci plus qu'un autre? Ben, c'est tout simplement parce que c'est l'île Maurice. C'est un paradis, comme le titre le dit bien, où il y a des coraux qui sont protégés. C'est vraiment des eaux qui sont d'une beauté alléchante, que ce soit pour le touriste, pour la faune, la flore. C'est vraiment, comment dire, on peut pas négliger ce joyau écologique de la Terre qui est aujourd'hui menacé, voire déjà à l'heure actuelle détruit. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il va falloir qu'on trouve une solution à ce genre de catastrophe. Écoutez, là, en ce moment, là, je suis, comme je vous dis, je suis sur l'article du journal de Montréal sur la question, et il y a une belle image satellite de la tragédie, et que je vous garantis, c'est pas beau à voir, là. C'est pas beau à voir. Et dire que cela, malheureusement, bien qu'on va être en mesure probablement de nettoyer le tout, le mal est déjà fait. Les coraux vont certainement mourir ou en grande partie. Et bon, ça c'est. Là, on parle de la flore, mais on doit parler de la faune aussi. La faune marine, bon, c'est pas rien, surtout à ces endroits-là qui sont assez tropicaux, pour le dire. Enfin bref, donc on doit trouver des solutions pour éviter ce genre de catastrophe. Après, les gens vont nécessairement dire oui, mais on dépend toujours du pétrole. Et c'est vrai, il ne faut pas nier le fait qu'on dépend toujours du pétrole. Le transport marin du pétrole est encore aujourd'hui la façon la plus. Ah ben, malheureusement, c'est la façon la plus sécuritaire de le transporter d'un endroit à l'autre du globe. Alors, faut-il arrêter le transport maritime du pétrole? Ben là, quand même pas, non, évidemment. Évidemment, de toute façon, ça serait tout simplement impossible. Ben, du moins aujourd'hui, ça serait tout simplement impossible d'envisager seulement cette hypothèse. Mais, pouvons-nous assurer, pouvons-nous faire en sorte, du moins la communauté internationale peut-elle s'assurer que les multinationales pétrolières puissent sécuriser davantage leurs navires? Ça, je crois que c'est faisable. Je crois qu'il y a quand même ce poids gouvernemental, pardonnez-moi, j'ai frappé mon bureau, ce poids gouvernemental qui plus est onusien d'une certaine façon, afin de faire pression à la manière d'un lobby, par exemple, sur les pétrolières. Bon, par contre, il faut faire attention avec ça. C'est un jeu dangereux, hein, parce que depuis que le pétrole est, hein, au début, fin 19e, début 20e siècle, de façon. Plutôt que, comment je devrais dire ça? Depuis que le pétrole a été démocratisé, je devrais dire. Bien, c'est un poids deux mesures. Ou si vous voulez, c'est une gouvernance à paliers multiples. Et là, je ne parle pas de la séparation des pouvoirs, je parle littéralement, on a un gouvernement, un État en place qui fait face, en fait, à des gens, des multinationales riches, imposantes, et qui ont le monopole, pour certains, d'une ressource primaire, obligatoire au bon fonctionnement de la société. Alors, ça devient très difficile, et très rapidement, d'ailleurs, pour les gouvernements, ou du moins individuellement parlant, de contrer la menace que peut offrir ou proposer comme conséquence directe ces multinationales. Alors, de là l'idée de faire appel plutôt à quelque chose de plus grand, comme l'ONU. Si évidemment, des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, limite, prennent les responsabilités nécessaires pour agir, je peux vous garantir qu'il va y avoir des changements structurels dans l'administration, si plus est, mais également au niveau physique. Les navires, il n'y a aucune raison que ce navire se soit échoué, parce que oui, il s'est échoué, je me rappelle plus si je l'ai mentionné, mais il s'est échoué. Là, ça veut dire qu'il n'est pas en train de couler, il s'est purement et simplement échoué. Il s'est fendu d'un bord puis de l'autre, il s'est échoué et se déverse en ce moment. Comment se fait-il que ça s'est passé? Il n'y a aucune raison que ça se passe. Aucune, littéralement. Pas avec les technologies d'aujourd'hui, là, du moins. Alors ça, c'était pour, on va dire, le rant, là, sur la question. Je trouve juste dommage qu'on en soit arrivé à ça, en sachant très bien que on fait tout, ah ben, du moins, on tente de tout faire pour changer nos façons de faire, nos modes de consommation aussi. Et là, ça, une catastrophe comme celle-ci arrive, ben, ça fait juste nous prouver qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait. On n'a peut-être pas suffisamment fait sur le court terme. Et ça me laisse croire que sur le long terme, bah ça bah quoi, ça sera pas mieux. Ça sera pas mieux. Et là, on peut se demander aussi au niveau des pipelines, par exemple. Est-ce que les pipelines vont être nécessairement plus efficaces si on développe, exemple, je vais prendre l'exemple du Canada, les sables bitumineux. Faire un couloir énergétique comme M. Scheer le disait lors des dernières élections de 2019, est-ce que ça va être beaucoup plus rassurant écologiquement qu'un paquebot de cette taille s'échoue sur un récif protégé? Est-ce que ça va être beaucoup plus efficace? Est-ce que ça va être plus économe aussi? J'ai l'impression que oui. Légitimement, je dois le dire. J'ai l'impression que oui, quand même. Soyons francs. Mais, vraiment, est-ce que c'est là qu'on veut se tourner? Est-ce que c'est vraiment ça? Pardonnez-moi l'avenir. Est-ce que c'est vraiment juste de dire on continue de produire le pétrole brut comme on le fait aujourd'hui, mais chez soi, avec d'autres techniques, comme le pipeline justement, hein, ou les gazoducs même? Le débat est ouvert hein, depuis plusieurs années déjà. Je crois qu'il y a matière d'en discuter encore aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas être candide au point de croire que du jour au lendemain, on peut tout arrêter. C'est évidemment pas le cas. C'est impossible, en fait, tout simplement. Et il faut savoir trouver des solutions à l'interne, mais comme à l'externe, comme je l'ai dit. Il faut savoir utiliser les leviers mondiaux afin de proposer notre vision, évidemment, mais aussi d'entendre la vision des autres. Alors, tragédie à l'île Maurice à éviter pour l'avenir. Hein? Je pense que c'est d'une pure et simple logique. Maintenant, j'ai hâte de voir comment, pardonnez-moi, comment la communauté internationale va réagir à cette tragédie. Bon, c'est évident, hein, comme on l'a dit, que cette catastrophe a été un peu ensevelie par ce qui s'est passé à Beyrouth, ça va de soi, c'est logique. Je pense pas qu'on doit s'en vouloir pour cela. Mais néanmoins, comme j'ai dit, c'est un poids deux mesures. Puis il faut savoir simplement, en fait, aussi sélectionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est regarder, par exemple. Lorsqu'il y a eu l'incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est 1 milliard de dollars qui a été amassé en moins de 24 heures pour la restauration. Explosion à Beyrouth. Bon, j'ai pas de chiffre devant moi, mais vous comprendrez que ça se chiffre en plusieurs centaines de millions probablement, ce qui a déjà été envoyé, que ce soit en matériel ou en homme. Tandis que là, l'île Maurice. Bah, j'ai entendu à peu près zéro pin barre sur ce qui aurait pu être envoyé jusqu'à présent pour sauver la faune et la flore marine. Puis ça, c'est sans parler de la tristesse là, des résidents de l'île qui doivent faire face à cette tragédie en pleine face. Bon, c'est toute une économie aussi qui est en jeu, là, que ce soit la pêche ou même le tourisme, parce qu'on comprend qu'une tragédie comme celle-là va nécessairement venir affecter l'économie locale, mais au sens littéral. Local à son sens le plus pur. Donc c'est ça. Il faut éviter le poids de mesure. Il faut savoir sélectionner aussi. Il faut rendre aussi la chose proportionnelle sans négliger évidemment ce qui est le plus important. Bon, alors voilà, donc c'était pas mal les trois grosses nouvelles internationales dont je voulais vous faire part aujourd'hui, chers auditeurs. Comme je vous l'ai dit, hein, c'était vraiment un balado plus relax, hein. Sam n'était pas présent et je n'ai pas pu trouver quelqu'un pour m'accompagner aujourd'hui, malheureusement. Mais inquiétez-vous pas, comme j'ai dit, c'est vraiment purement et simplement temporaire, ce genre de situation. Ça va arriver une fois de temps en temps ici et là. Mais je trouvais pertinent de vous exprimer ma vision des choses sur ce qui s'est passé cette semaine, parce que mon Dieu, qu'il y en a eu des choses. Alors, juste pour vous remettre un peu dans le contexte, là, je parle vraiment de la semaine du 3 août au 9 août. Alors, vraiment, cette semaine-ci, il s'en est passé des choses. Tenez-vous au courant. Je pense que ça va être important de voir ce qui va en être de ces trois actualités-là, parce que elles nous touchent plus ou moins respectivement, hein. On comprend que Trump, évidemment, c'est direct. On comprend que Beyrouth, c'est une tragédie humaine, tandis que l'île Maurice, c'est une tragédie écologique. Alors, j'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux. Vous pouvez toujours aller voir l'agenda.ca pour en savoir davantage. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.